Et 8h10 à Lima, c'est l'heure du journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Michael Ponge.
Bonjour Anne, merci. La crise politique et sociale en cours au Pérou va-t-elle se transformer en crise diplomatique avec la Bolivie voisine? C'est notre dossier du jour. On va revenir aussi sur ces 3500 emplois formels de l'industrie textile qui vont être supprimés en Haïti. On sera aussi en Équateur avant un référendum constitutionnel dimanche. Et puis, ça y est, enfin Benoît Ferrand, la Martinique a un drapeau.
Et oui, les conseillers territoriaux ont finalement adopté hier leur nouveau drapeau, une bande verte, une bande noire et un triangle rouge.
On en parle dans une quinzaine de minutes avec vous, Benoît, le journal de la première. Bienvenue à tous. Mais d'abord, pour commencer, laissez-nous vous raconter la mésaventure des quelques 600 habitants de l'île chilienne de Mocha, située à une trentaine de kilomètres des côtes. Véritable paradis sauvage et tranquille qui s'est transformé aujourd'hui en prison. L'unique petit avion qui servait aux liaisons vers le continent est en panne et l'entreprise qui l'exploite n'a pas les moyens de le réparer. Et si l'on veut quitter Mocha, eh bien, Naïla de Rouanet, il faut payer cher, très cher.
Avec les anciens tarifs de l'entreprise, un ticket valait 6 euros. Aujourd'hui, les habitants doivent faire appel à des avions particuliers, coût du billet 94 euros.
La différence est énorme et je pense que 80% des habitants de l'île n'ont pas les moyens de payer un tel prix. Ils se retrouvent donc totalement isolés.
Mariela Han vit sur l'île Mocha.
Les gens sont inquiets et ils se sentent abandonnés. Ça devient compliqué de vivre ici. En plus, une grande partie de la population, ce sont des personnes âgées.
Et sur l'île, il n'y a aucun médecin, seuls quelques auxiliaires de vie.
Les habitants ne peuvent pas aller faire des examens ou assister à leurs rendez-vous médicaux, car les billets sont trop chers. Il y a des personnes dont l'état de santé est fragile et elles ne peuvent pas faire leur contrôle. Il pourrait y avoir des risques de décès.
Mariela, qui travaille dans le secteur du tourisme, a aussi vu ses dépenses augmenter.
Le prix des aliments périssables, qui sont importés par avion, a augmenté de plus de 100%.
Les autorités chiliennes ont mis en place une aide financière pour les habitants en attendant de trouver une nouvelle entreprise pour assurer les vols entre l'île et le continent. Naïla de Rouanet, Santiago, RFI.
Et c'est sans avion que l'on va nous, du Chili au Pérou.
Ma démission n'est pas en jeu dans cette situation. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour Mickaël, bonjour à toutes et à tous.
Celle qui parle, c'est Dina Boluarte, la présidente péruvienne, qui, une fois encore, refuse de démissionner, Justine, alors que le pays est bloqué maintenant depuis quasiment 2 mois.
Oui, dans cette déclaration que vous entendez, elle a pointé du doigt une minorité de la population. Hier, elle a accusé de petits groupes de générer le chaos dans le pays. Nous n'allons pas céder au chantage, a assuré la présidente, dont la photo s'affiche encore une fois à la une de La Repubblica. Hier, le Congrès a rejeté une quatrième fois l'idée d'avancer la date des élections à décembre 2023, comme le demandait la présidente sous la pression des manifestants. Le parti de gauche Pérou Libre, qui était le parti du président Pedro Castillo, destitué en décembre, proposait aussi d'organiser un référendum pour ou contre l'élection d'une assemblée constituante, précise El Comercio, là aussi une demande des manifestants. Et avec ce nouveau rejet, les parlementaires s'accrochent à leur siège, fustige aujourd'hui en manchette le journal La Repubblica, classé à gauche.
Et les manifestations vont donc sans aucun doute se poursuivre. Des protestations que la Bolivie voisine est accusée d'attiser. La Bolivie accusée d'ingérence aussi dans les affaires internes de Lima. Un homme, dit-on, serait à la manœuvre, l'ancien président bolivien Evo Morales, au point que celui-ci a été interdit de territoire péruvien. Bonjour Margot Ratezic.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Expliquez-nous, comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Eh bien, ce qui a provoqué les tensions, Michael, c'est le soutien d'Evo Morales à Pedro Castillo. Quand l'ex-président péruvien a été destitué et arrêté en décembre, Evo Morales a immédiatement dénoncé, je cite, une arrestation illégale. Il faut dire que les deux anciens chefs d'État ont plusieurs points communs. Ils sont tous les deux de gauche et se sont fait connaître dans des organisations paysannes. Quand Pedro Castillo a pris la tête du Pérou en 2021, Evo Morales a été l'un de ses premiers soutiens étrangers. Je vous propose d'écouter Ramiro Escobar, professeur de relations internationales à l'Université pontificale catholique du Pérou.
Evo Morales était assez proche de l'ex-président Pedro Castillo, car même si ce dernier n'est pas originaire du sud du Pérou, à la frontière bolivienne, il vient lui aussi d'une région montagneuse. Evo Morales le considérait donc comme un leader social et il éprouvait une certaine sympathie politique à son égard.
Les deux anciens présidents sont donc proches. Margot Evo Morales est aussi un visage bien connu des Péruviens. Il est même particulièrement influent dans une région du pays.
Oui, c'est le département de Puno, région frontalière entre le Pérou et la Bolivie. C'est l'un des épicentres de la crise sociale. Evo Morales a d'ailleurs exprimé son soutien aux manifestants de cette région. Ramiro Escobar l'explique par une proximité culturelle.
La partie sud du Pérou, notamment le département de Puno, a une culture très proche des plaines d'altitude de Bolivie. Il s'agit essentiellement de la culture aymara, mais aussi quechua. Il existe des liens étroits entre ces deux régions depuis des décennies, voire des siècles. Et dans ce contexte, nous avons une personnalité comme Evo Morales, qui est influent dans la région de Puno. Donc quoi que fasse Evo Morales, cela aura une influence à Puno. Pour autant, je ne pense pas que cela aura une influence sur l'ensemble du Pérou, plutôt sur cette région.
Cette influence d'Evo Morales à Puno dérange l'entourage de la nouvelle présidente péruvienne, Dina Boluarte. Depuis quelques semaines, Evo Morales est même interdit d'entrer sur le territoire péruvien. Les autorités du Pérou l'ont accusé avec 9 autres ressortissants boliviens de prosélytisme politique. De plus, l'actuel dirigeant bolivien, Luis Arce, du même bord qu'Evo Morales, soutient lui aussi les manifestations. Mais d'après Ramiro Escobar, pas de grave crise diplomatique en vue.
La réaction du président Luis Arce va de nouveau perturber les relations entre le Pérou et la Bolivie. Mais pas à un niveau grave ou irréversible, je pense, car les liens historiques sont très forts, et ce malgré les différences politiques en cette période difficile.
Les autorités des deux pays sont même parvenues à un accord ces derniers jours. Depuis plusieurs semaines, des routes frontalières sont fermées en raison des manifestations. Le Pérou et la Bolivie ont décidé ensemble de prolonger les heures d'ouverture d'un poste de frontière pour débloquer le passage des camions immobilisés. Preuve que le dialogue n'est pas totalement rompu.
Et on a donc la réponse à notre question du début. Pas de crise diplomatique, un dossier signé Margot Ratezic. Merci.
Radio Francia Internationale.
8h17 à Quito, l'Équateur, qui s'apprête à voter. Je reviens à vous, Justine Fontaine, qui s'apprête à voter dimanche. Dites-nous tout.
Oui, il y a des élections municipales notamment, mais aussi un référendum autour de 8 questions posées aux électeurs par le gouvernement du président Guillermo Lasso. Détail El Universo. Encadrer beaucoup plus strictement la création des partis politiques, réduire le nombre de parlementaires ou encore créer de nouvelles mesures de protection de l'environnement. Voici quelques-unes de ces questions qui, si elles sont acceptées, impliqueraient de modifier la constitution du pays. Mais la mesure qui fait le plus réagir en Équateur, c'est la proposition qui permettrait d'extrader vers les États-Unis des citoyens soupçonnés dans des affaires de crimes organisés, en particulier de trafic de drogue.
Et ça, c'est une mesure qui existe par exemple déjà en Colombie, mais qui ne réglera pas les problèmes d'insécurité et de criminalité en Équateur, d'après Daniel Pondon de l'Institut des hautes études nationales en Équateur. Écoutez.
Cette mesure a été présentée comme une stratégie miracle contre la criminalité liée au trafic de drogue qui crée de la violence et de l'insécurité dans le pays. Mais cette réalité de la violence extrême que nous vivons en ce moment a des origines internes, sociales. Elle est liée à des problèmes de justice, de police et de moyens. Malheureusement, cette question de l'extradition est présentée comme étant au centre du problème, alors que ce ne serait à mon sens qu'une solution cosmétique. Cette mesure est utilisée pour tenter d'attirer des électeurs de manière populiste à des fin politicienne.
Des propos recueillis par André Glica Pérez. Malgré cela, Justine, un éditorialiste du journal El Telegrafo, appelle à voter oui à toutes les questions posées par le gouvernement.
Il s'agit de mettre fin, dit-il, au piège de la constitution actuelle, œuvre des partisans de l'ancien président de gauche, Rafael Correa, envers qui cet éditorialiste ne trouve pas de mots assez durs. Dans l'Aura, plusieurs analystes dénoncent de leur côté les relents populistes de la campagne, les insultes, le faible niveau des débats et la dangereuse déconnexion des élites politiques vis-à-vis des électeurs.
Et on analysera lundi ensemble les résultats de ce référendum.
Cap haïtien, 100.5 FM.
Cap haïtien dans le nord d'Haïti, tout près du parc industriel de Caracol, où la mauvaise nouvelle dont on parlait hier a été confirmée depuis. 3500 emplois d'un sous-traitant textile vont être supprimés d'ici la fin du mois, Justine.
Et oui, en cause la mainmise des gangs sur le pays, encore une fois, et notamment le blocage pendant plusieurs mois l'an dernier du terminal pétrolier de Port-au-Prince par des groupes armés, ainsi que les grèves à répétition des douaniers. Tout cela a entraîné des retards dans les importations importations et a paralysé la production à plusieurs reprises, explique Le National. Le sous-traitant coréen SCH a donc vu certaines commandes annulées par ses clients au profit de ses concurrents dans les pays voisins, précise encore le journal.
Il préfère ainsi donc réorienter sa production dans d'autres pays des Caraïbes, à savoir que les usines de sous-traitance comme SCH constituent la principale source d'emploi formel en Haïti. Haïti, où les grossesses précoces assombrissent peut-être un peu plus qu'ailleurs l'avenir des jeunes filles empêchées dans leur rêve d'école et d'avenir. Marie-Andrée Bellange a rencontré deux d'entre elles à Port-au-Prince.
J'ai eu une relation amoureuse pendant mon adolescence. J'avais 15 ans et je suis tombée enceinte à 16 ans. J'ai mis au monde l'enfant. Le père était plus âgé que moi. Il avait 21 ans.
Cynthia, 19 ans, elle est née d'une famille de 3 enfants. L'air timide, la jeune femme revient sur sa grossesse.
Je fréquentais une école à Delmas où j'ai rencontré un jeune homme qui, par la suite, allait quitter Port-au-Prince pour s'installer en République dominicaine. Je n'ai eu aucune nouvelle. Quand il a décidé de me contacter, il m'a seulement dit qu'il allait m'envoyer de l'argent, mais je n'ai jamais rien reçu.
Les malaises liés à sa grossesse ont poussé Cynthia à abandonner l'école pour aller vivre dans l'une des régions d'Haïti.
Au début de ma grossesse, je continuais d'aller à l'école, mais quand les symptômes ont commencé à se manifester, j'ai quitté les cours. En plus, je vivais avec une cousine de mon papa. C'est elle qui s'occupait de ma scolarité également. Je ne pouvais pas lui donner toutes ses responsabilités. Alors, j'ai pris la décision de quitter Port-au-Prince.
Soutenue financièrement par ses parents pour ses visites médicales, la jeune fille a fini par accoucher de jumeaux. Mais Cynthia n'a pas pu reprendre sa scolarité faute de moyens.
Je voulais devenir médecin après mes études classiques, mais ma grossesse m'a empêchée de réaliser ce rêve. Mes parents sont malades. Ils n'ont pas les moyens financiers pour me permettre de poursuivre l'école.
À l'instar de Cynthia, Farah rêve de devenir infirmière. Il était 6 heures du matin quand elle nous a accueillis chez elle. Mère dévouée, la jeune femme s'active à préparer ses deux filles pour l'école. Farah a eu sa première fille à 17 ans. Elle a rencontré un autre homme qui l'a aidé à prendre soin d'elle et de son enfant. Mais ce dernier l'a abandonnée quand il a su qu'elle était enceinte de lui. Farah n'a pas eu d'autre choix que de mettre son rêve de côté.
Les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Il faut qu'on prenne soin d'eux. Parfois, on est obligé de se négliger pour cela. Ma fille aînée est en deuxième année fondamentale et sa petite sœur vient à peine de commencer l'école.
Abandonnée par son père et élevée par sa mère, Farah fait la lessive pour gagner de quoi s'occuper de ses filles.
Ma maman me soutenait financièrement, mais pour le moment, elle ne fait plus de commerce. Maintenant, je fais de la lessive et c'est cet argent qui me permet de prendre soin de mes enfants et de moi.
Pour autant, malgré sa situation financière difficile, Farah n'a pas abandonné son rêve.
Tout ce que je souhaite, c'est de pouvoir finir mes études classiques, devenir infirmière, comme j'en ai toujours rêvé, et voir mes deux enfants devenir des intellectuels.
En Haïti, hormis les organisations internationales, il n'existe aucune structure qui vienne en aide aux filles mères. Pas de programme spécifique non plus pour prévenir les grossesses précoces qui mettent en danger la vie des jeunes haïtiennes. Marie-Andrée Bellange, Port-au-Prince, RFI.
8h23 à Port-au-Prince. On termine par deux actualités politiques. D'abord au Brésil, avec la dernière sortie du président Lula qui s'en est pris hier à son prédécesseur Jair Bolsonaro, qui l'accuse, Justine, d'être derrière les émeutes du 8 janvier à Brasilia.
Je le dis haut et fort, ce citoyen a préparé le coup d'État. C'est ce qu'a assuré Lula au sujet de l'ancien président d'extrême droite lors d'une interview à la télévision hier. Plus tôt dans la journée, un sénateur avait assuré que Jair Bolsonaro l'avait convoqué début décembre pour faire pression sur lui, ce sénateur, et lui demander de l'aider à empêcher le retour au pouvoir de Lula, en tentant notamment d'éviter la certification de l'élection présidentielle. C'est ce que rapporte le journal Folia. Mais le sénateur a rapidement changé sa version des faits et assuré finalement que lors de la réunion, le président sortant n'avait fait qu'écouter les propositions d'un député de son camp, souligne le quotidien de Sao Paulo.
Voilà pour le Brésil. Merci beaucoup, Justine Fontaine. Enfin, autre actualité politique aux États-Unis. L'élu démocrate Ilhan Omar ne siégera plus au sein de la puissante commission des affaires étrangères. Les Républicains hier ont voté son exclusion. Ils lui reprochent des propos à caractère antisémite tenus par le passé contre un lobby pro-israélien. Les démocrates dénoncent un geste hypocrite. Karine Hutton nous raconte.
Pour les Républicains, les propos d'Ilhan Omar, reconnu comme antisémite, montrent son manque d'objectivité sur les sujets internationaux. Ils ont voté à 218 voix contre 211 son départ de la Commission des affaires étrangères. Régulièrement raillé par Donald Trump et ses acolytes, la représentante démocrate, qui a rappelé être musulmane et immigrée de Somalie, a affirmé que les Républicains s'en prenaient à elle à cause de ses origines.
Quelqu'un est-il surpris que je sois prise pour cible? Quelqu'un est-il surpris que je sois jugée indigne de parler de la politique des affaires étrangères américaines? Je suis une Américaine. Mon rôle ne sera pas affaibli si je ne siège pas. Ma voix deviendra de plus en plus forte et mon leadership sera célébré dans le monde entier comme il l'a été.
Les démocrates ont aussi crié à la vengeance politique. Ils sont convaincus que les républicains leur font payer le fait qu'ils aient interdit l'accès à des commissions à deux représentants d'extrême droite il y a 2 ans. Il faut dire que jusque-là, le retrait des législateurs des comités de la Chambre était essentiellement sans précédent. Karine Auton, New York RFI.
Et voilà pour les États-Unis. On prend la direction pour terminer de la Martinique où il est 9h26.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
Ça y est, c'est officiel, la collectivité de Martinique a enfin son nouveau drapeau, Benoît.
Oui, ça n'a pas été facile, mais les conseillers territoriaux ont finalement adopté hier le nouvel hymne, que vous entendrez d'ailleurs dans quelques instants, et le nouveau drapeau, une bande verte, une bande noire et un triangle rouge. Alain Livory.
Après 2h30 de débat, les conseillers territoriaux ont adopté à l'unanimité, moins une abstention, le drapeau rouge-vert-noir avec le triangle. Michèle Monrose, la présidente de la commission ad hoc pour l'hymne et le drapeau.
Nous avons su faire cohésion et dire à nous-mêmes d'abord, Martiniquais, et puis aussi au reste du monde, que nous sommes prêts, que nous sommes un peuple, que nos artistes, nos sportifs et puis tous ceux qui vont nous représenter à l'extérieur pourront porter fièrement les couleurs martiniquaises qui sont un rappel de ce qui s'est passé, c'est très important, un ancrage et puis surtout de notre regard tourné vers l'avenir, Césaire disait, pour avoir la force de regarder demain.
Maintenant que le drapeau a été adopté, reste maintenant à apprendre les paroles de l'hymne.
Direction la Guyane maintenant, avec la création hier à Rémire-Montjoly de ce collectif pour obtenir une reconnaissance des violences subies par des enfants amérindiens au sein d'internats catholiques. Le collectif souhaite notamment la création d'une commission Vérité et Réconciliation pour lever le voile sur cette histoire taboue. Écoutez Alexis Tiouka, membre fondateur du collectif. Il est au micro de Mélodie Nourry.
Cette commission de vérité et réconciliation n'est pas là pour juger, c'est juste pour comprendre à travers des témoignages que la commission va faire pour élaborer l'histoire de ce qui s'est passé dans les hommes exactement, de savoir pourquoi, qui a commandité le système des hommes dans les années 30. Et il ne faut pas attendre que les anciens meurent pour connaître ces histoires. Cette histoire-là est nécessaire à savoir. C'est l'histoire de la Guyane, c'est notre histoire. Le collectif a impulsé la création de cette commission et en mois septembre, la commission va commencer à travailler. On a déjà des discussions avec les représentants de l'État. On ira voir les représentants de l'Église pour qu'ils fassent partie de cette commission en vérité et réconciliation. Et la finalité du rapport qui va être rendu en septembre 2024 sera un outil qui va servir au collectif pour choisir quel type de réparation il va avoir dans cette réconciliation.
Et voilà une affaire dont on aura sûrement l'occasion de reparler. Bon après-midi, Mickaël. Bon week-end. À lundi.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. À vous et aux équipes de La Première. On se retrouve en effet lundi pour une nouvelle semaine du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Quelques avant-sujets à vous donner. Par exemple, lundi, je vous le disais, on va reparler donc de l'Équateur et de ce référendum constitutionnel. Mardi soir, il y a le discours de l'État de l'Union de Joe Biden dans la nuit de mardi à mercredi. Et mercredi, on sera avec un invité pour analyser donc ce discours sur l'état de l'Union. Merci à Hélène Avril qui était à la réalisation aujourd'hui. Très bon week-end à tous à l'écoute de la Radio du Monde.